Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, menace, dissolution et fermeture. La lutte contre l'islamisme scandée haut et fort par le gouvernement. On va se pencher sur la mosquée de Pantin. Gérald Darmanin a annoncé sa fermeture hier soir. On s'arrêtera aussi sur les dissolutions d'associations que propose le ministre de l'Intérieur. La Ligue des droits de l'homme s'interroge sur leur légalité. À la une également, cette révélation de la cellule investigation de Radio France. Il s'agit des comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur en 1995. Truffé d'irrégularités, le Conseil constitutionnel le savait, il les a pourtant validés. La deuxième vague du Covid, elle monte. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. La métropole de Saint-Étienne commence à pousser les murs dans les hôpitaux. Et dans 20 minutes, un patron au cœur de la crise économique, celui du premier groupe hôtelier d'Europe.
Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, au micro d'Inter dans une grosse vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant, il répondra à toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, les sondages aux États-Unis, ils donnent tous Donald Trump perdant, mais il s'était trompé il y a 4 ans. Et puis du foot, c'est la reprise de la Ligue des Champions ce soir. Rennes entre en piste pour la première fois de son histoire.
France Inter.
Il y a l'enquête directe, celle pour laquelle 15 personnes sont en garde à vue, mêlées de près ou de loin à l'assassinat de Samuel Paty, l'enquête le dira. Et puis il y a ces opérations, tous azimuts, contre les ennemis de la République, dit le gouvernement, des hommes, des femmes, des associations proches de la mouvance islamiste. Près d'une quarantaine ont reçu la visite de la police hier, et un lieu est d'ores et déjà fermé. C'est une mosquée, fermeture annoncée par le ministre de l'Intérieur hier soir.
J'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège. L'imam de cette mosquée a parmi ses enfants déscolarisés dans l'école interdite de la semaine dernière que j'ai fait fermer à Bobigny, où des enfants de 2 à 6 ans portaient le hijab sans cours de récréation, sans fenêtre, sans professeur. Cette mosquée aujourd'hui sera fermée et donc le préfet de Seine-Saint-Denis signe ce soir son interdiction.
Gérald Darmanin hier soir sur TF1, la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis accusée d'accointance avec les salafistes. Son responsable s'en défend, même s'il reconnaît quelques dérives, mais c'est du passé. Voilà ce qu'il a dit à Olivia Cohen.
Le responsable de la mosquée de Pantin, Mohamed Enich, juge cette fermeture disproportionnée. Si la mosquée a bien été fréquentée par de jeunes salafistes par le passé, elle ne l'est plus aujourd'hui.
C'est une mosquée assez ouverte. La majorité, il y a beaucoup de retraités, beaucoup de personnes âgées. On ne peut pas les soupçonner de radicalisme. Il y a aussi des jeunes. Et c'est un public beaucoup changeant.
Pourtant, on nous le confirme, une personnalité polémique officie toujours au sein de la mosquée de Pantin. Il s'agit d'un imam salafiste du nom d'Ibrahim Aboutala, qui était déjà en poste quand Mohamed Enich est devenu le responsable de cette mosquée.
Lorsque je suis venu, je l'ai trouvé avant moi. Donc je ne pouvais pas venir avec une démarche de nettoyage au karcher. Et depuis, on a fait un travail ensemble. Je lui ai expliqué qu'il faut qu'on évolue vers un islam de France. Donc il a beaucoup évolué, il ne faut pas rester toujours dans l'image de quelqu'un il y a 5 ans, il y a 6 ans. Beaucoup de gens évoluent.
Une cinquantaine d'associations sont dans le collimateur des autorités.
Et parmi ces associations, Gérald Darmanin veut en dissoudre deux, ce qu'il proposera demain en Conseil des ministres. Il s'agit du collectif contre l'islamophobie et de l'ONG Baraka City qui collecte des fonds. Et la liberté d'association dans tout ça, c'est la Ligue des droits de l'homme qui s'interroge, Julie Pietri, parce que l'émotion, dit-elle, ne doit pas s'opposer au droit.
Ennemis de la République, associations nocives ou nuisibles, la communication du ministère de l'Intérieur, les mots choisis ont interpellé Michel Tubiana, avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, peut-être plus encore quand il s'agit du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, nommément visé par Gérald Darmanin.
Bah, écoutez, ce qui me surprend, c'est cette espèce de certitude affichée par le ministre de l'Intérieur. Ce qui nous inquiète dans le processus qui est en cours, c'est la question de la liberté d'association. Aujourd'hui, nous voyons un ministre de l'Intérieur présenter un dossier qui, à ce jour, ne contient rien, qui nous permet en tout cas publiquement de porter un jugement négatif. Là, nous franchissons un cap qui est celui de mettre en cause la liberté d'association. Il faut autre chose que des déclarations martiales pour justifier de la dissolution.
Dissoudre une association par décret en Conseil des ministres, c'est possible en cas de provocation à la haine ou d'agissement en vue de provoquer des actes terroristes. Mais j'attends encore de voir, dit-il, les éléments concrets qui justifient de telles menaces de fermeture.
Julie Pietri, ce sera dans la cour de la Sorbonne à Paris demain à 19h. L'hommage national à Samuel Paty, présidé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, sur les lieux de l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine, une marche blanche aura lieu à 18h30.
Il est 8h06, Florence, cette révélation maintenant qui nous ramène 25 ans en arrière.
On la doit à la cellule Investigation de Radio France. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
Nous voici donc avec vous en 1995, élection présidentielle remportée par Jacques Chirac. Après le scrutin, les comptes de campagne sont épluchés, comme à chaque fois, ils ont été validés cette année-là pour Jacques Chirac, comme pour Édouard Balladur, alors qu'il présentait de lourdes irrégularités, et ça les sages le savaient, comme en témoignent les archives du Conseil constitutionnel auxquelles vous avez eu accès avec Élodie Guéguin, Sylvain.
Oui, ces archives, elles racontent effectivement que la bataille terrible que se sont livrés Jacques Chirac et Édouard Balladur en 95 s'est faite au prix de nombreuses entorses à la loi sur le financement des campagnes électorales. Les deux candidats de la droite avaient explosé leur plafond de dépenses de campagne. Ils ont tous les deux bénéficié de versements en liquide de plusieurs millions de francs à la provenance aussi suspecte qu'inexpliquée. Et ils ont tenté tous les deux de dissimuler ces infractions en omettant de fournir des dizaines, voire des centaines de factures de frais engagés pendant leur campagne. Sauf qu'ils sont tombés sur des rapporteurs très consciencieux, des hauts fonctionnaires chargés d'examiner leurs comptes, qui ont mis au jour ces nombreuses irrégularités et qui les ont déposées sur la table des membres du Conseil constitutionnel présidé par Roland Dumas à l'époque.
Et malgré tout, Sylvain, les comptes ont été validés.
Et oui, et cela parce que le Conseil, son président Roland Dumas en tête, a voulu éviter une crise politique. Cela ressort clairement des comptes rendus des 13 séances d'examen des comptes de campagne qui se sont déroulées entre juillet et octobre 95. Les neuf sages ont tout fait pour sauver le président élu. Ils ont maquillé ses comptes, taillé dans les dépenses de Jacques Chirac pour qu'elles passent sous le plafond des dépenses. Certains l'expriment clairement dans les comptes rendus. On ne va pas rejeter un compte avec les conséquences politiques que l'on sait, dit par exemple Noël Lenoir, qui siégeait au Conseil à l'époque. Les conseillers étaient plus divisés sur le cas d'Édouard Balladur, mais ils ont quand même validé ses comptes.
Sylvain Tronchet de la cellule 1, Investigation de Radio France, enquête à lire en longueur sur franceinter.fr.
France Inter, 8h08, Florence Paracuellos, la suite du journal. Le couvre-feu cassera-t-il la vague?
Dans les services de réanimation partout en France, on croise les doigts. 2000 patients y sont soignés. À Saint-Étienne, les hôpitaux sont déjà à saturation. La métropole détient le triste record du taux d'incidence. 700 nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants. L'hôpital du Gier à Saint-Chamond est donc en train de pousser les murs, Julien Gonzalez.
Adeline avait déjà affronté la première vague et elle s'est de nouveau portée volontaire au service Covid depuis fin septembre. Le rythme de cette aide-soignante est extrêmement intense, avec des journées de travail de 12 heures et ce n'est que le début.
On savait qu'il allait y avoir une deuxième vague, mais on ne s'attendait pas aussi rapidement. Ça augmente de jour en jour, très rapidement, trop rapidement. Vendredi, on a fait 8 entrées. C'était assez compliqué physiquement. Et mentalement, on risque d'avoir du mal à supporter cette deuxième vague si elle est énorme.
Des journées très dures que confirme Catherine, infirmière de l'unité Covid. Ici, les 28 lits sont déjà saturés. Pour elle, c'est clair, les Stéphanois ne sont vraiment pas assez responsables.
La population stéphanoise n'est pas assez vigilante par rapport à tout ça. Et les gens n'ont pas conscience tant qu'ils n'ont pas de personnes proches qu'ils connaissent, qui sont passées par là. Même nous, en tant que soignants, quand on explique ce qu'on vit en restant dans les... Enfin, avec le secret professionnel, tout ça, les gens ont beaucoup de difficultés à croire ce qu'on leur raconte.
Et face à cette deuxième vague qui monte, 8 nouveaux lits ont été affectés au service Covid ce lundi, qui vont très vite être occupés selon elle. De nombreux patients dans d'autres services sont déjà sur liste d'attente.
Depuis une semaine, 14 patients des hôpitaux de Saint-Étienne et de Lyon ont été transférés vers ceux de Clermont et de Chambéry. 11 600 malades en tout sont hospitalisés en France et 146 décès ont été enregistrés hier. L'Europe, elle, comptera demain un premier pays reconfiné. C'est l'Irlande qui repasse à partir de minuit et pour 6 semaines. Commerce non essentiel fermé, salariés en télétravail, interdiction de faire de l'exercice au-delà de 5 km. La seule différence avec le printemps, c'est que les écoles et les crèches resteront ouvertes. À quoi va ressembler la politique agricole de l'Europe jusqu'en 2030? Cette semaine sera décisive pour le savoir. La réforme de la PAC entre les mains des ministres de l'Union depuis hier, puis de devant le Parlement demain. Le texte sera ensuite validé au plus tard début 2021. Et ce qu'on sait déjà, Manuel Ruffet, c'est que la nouvelle PAC sera plus verte et que des marges de manœuvre vont être laissées à chaque pays, ce qui inquiète les agriculteurs qui vivent pour beaucoup de ces aides européennes. Reportage.
On est dans son champ de colza. Quentin Le Guillou, jeune céréalier installé sur 150 hectares en Eure-et-Loire, culture classique, blé, colza, orge, maïs, et qui tient très vite à souligner l'importance des aides de la PAC.
Sans la PAC, c'est zéro revenu. C'est-à-dire en 2018, j'ai reçu à peu près 30 000 euros d'aide PAC. J'ai fini la fin de l'année avec 30, 31 000, 32 000 euros. En résumé, je n'aurais pas eu cette PAC-là. Je ne serais plus aujourd'hui agriculteur.
Alors une PAC plus verte, pourquoi pas, à condition d'encourager et pas sanctionner.
Et donc ceux qui font, encourageons les autres avec un paiement, en leur disant, voilà, on vous encourage à aller là-dessus, et ça va se faire tout seul. Mais quand on donne des normes et des obligations, ça se passe jamais bien.
Car lui, il en fait des efforts, il ne laboure plus, tous ses sols sont couverts pour éviter l'érosion, le réchauffement et stocker du carbone. Et puis, il a replanté des haies.
On peut voir au loin devant nous, là, 800 mètres devant nous, là, il y a une première haie. Aujourd'hui, sur la ferme, on est à peu près à 5 km de haies réimplantées, autant qu'elles servent de niche pour la vie et les oiseaux.
Mais ce qui ne lui plairait surtout pas à Quentin Le Guillou, ce serait trop de latitude laissée à chaque pays, des normes plus drastiques pour la France, moins pour d'autres. La porte ouverte à nouveau à de fortes distorsions de concurrence.
Manuel Ruffès, des congés maladie pour les professions libérales, c'est une révolution qui se profile, prévue dans le budget de la Sécurité sociale 2021. Ces indemnités journalières pour les experts comptables, les notaires ou encore les pharmaciens seront financées par une nouvelle cotisation. Sur le papier, il ne peut que gagner. Joe Biden en tête de tous les sondages devant Trump à 2 semaines de la présidentielle. Mais souvenons-nous, en 2016, Donald Trump devait perdre, selon les sondeurs. Il s'était trompé. Alors un même scénario peut-il se reproduire? Élément de réponse avec notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
À 2 semaines de l'élection, le site spécialisé 538 estime à 87% la probabilité d'une victoire de Joe Biden. Mais il y a 4 ans, le même site de référence donnait exactement le même score à Hillary Clinton. Il convient donc de rester extrêmement prudent. Il y a néanmoins une différence importante avec 2016. C'est la stabilité des courbes. Depuis le printemps dernier, Biden a toujours été en tête des intentions de vote, alors qu'il y a 4 ans, la course était irrégulière et les courbes Trump-Clinton s'étaient croisées à 2 reprises. Aujourd'hui, Biden dispose de 9 à 10 points d'avance au niveau national, mais surtout il est devant aussi dans les États clés, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, ces 3 États qui avaient offert la présidence à Trump. Même en Floride, 1,4 point d'avance pour le démocrate. Là, on est toutefois dans la marge d'erreur. Face à ces sondages, chaque camp affine sa stratégie. Désormais, Trump évoque parfois en meeting une éventuelle défaite, comme ici, vendredi soir, en Géorgie. Imaginez que je perde, il faudra peut-être que je quitte le pays. De l'humour sans doute, mais aussi une manière de remobiliser ses troupes. Dans l'équipe Biden, on répète jour après jour aux militants démocrates qu'il ne faut pas considérer la victoire comme acquise et que chaque voix comptera d'ici au 3 novembre. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Et près de 30 millions d'Américains ont déjà voté pour la présidentielle, soit par courrier, soit dans les bureaux de vote. C'est presque 1/5 de la participation attendue. Enfin, l'interruption fut courte et c'est déjà la reprise de la Ligue des Champions. Le début ce soir pour Paris, qui accueille les Anglais de Manchester United à 21h. Et on verra ce que donne le résultat, mais c'est d'ores et déjà un jour de gloire pour Rennes, qui participe pour la première fois de son histoire à la compétition à 21h ce soir aussi face aux Russes de Krasnodar. 5000 supporters rennais dans les tribunes du stade. Les autres seront devant leur télé ou leur radio pour ce moment tant attendu, François Rosy.
C'est un sentiment de fierté qui habite aujourd'hui la majorité des Rennais avant ce match historique. Au premier rang desquels, un enfant de la ville et du stade rennais, l'entraîneur du club, Julien Stéphan.
Beaucoup de fierté, en effet, mais c'est surtout la fierté d'avoir rendu les gens fiers. Parce qu'on le fait, bien sûr, pour nous, mais on le fait aussi pour beaucoup de personnes, des salariés, pour des gens qui suivent le club, qui sont amoureux du club depuis plusieurs années, voire des dizaines et des dizaines d'années, qui auraient aimé découvrir ça avant et qui ont été très, très patients. Donc il y a une grande fierté, beaucoup de bonheur.
Du bonheur aussi pour les 5000 chanceux qui ont réussi à obtenir une place. C'est le cas de Loïc, qui sera au Roazhon Park avec son fils.
Je vais penser très fort à ceux qui ne vont pas venir déjà. Je vais essayer de chanter, de crier un peu plus fort aussi, puis d'encourager à fond le Stade Rennais pour qu'il puisse avoir cette première victoire en Ligue des Champions pour bien commencer. Quoi.
Pour les autres, il faudra attendre avant de voir Rennes au stade dans la plus belle des compétitions. Serge, supporter depuis 1948, mesure l'importance de ce moment.
C'est un événement considérable pour nous autres supporters de longue date. Hein. On ne pensait pas un jour pouvoir arriver à ce stade de la compétition. C'est vraiment très très important.
L'octogénaire s'attend à une grande émotion avant le début de la rencontre.
Pas une larme, mais un frisson. Puis surtout d'entendre la musique, la fameuse musique, celle-là, alors c'est inoubliable.
Mais oui, la musique qui fait dresser les poils, qui donne la chair de poule à tous les amateurs de foot.
Merci Florence Paracuelos.